Il est 19h, passé de 3 minutes. Ça ne va toujours pas en s'arrangeant, mais heureusement, on est ensemble sur Radio Campus Paris. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur le 93.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Selon que vous serez catholique ou musulman, les décisions de l'État vous rendront innocent ou coupable. Ce n'est pas tout à fait comme cela que La Fontaine l'avait dit à l'époque, mais ça colle plutôt bien avec ce qui se passe en ce moment dans les établissements scolaires privés sous contrat. Selon que vous soyez Averroès ou Stanislas, l'État s'acharnera sur vous ou bien fermera les yeux. On a beaucoup parlé récemment, et à juste titre, de Notre-Dame de Bétharram, accusée par plus d'une centaine d'anciens et anciennes élèves de maltraitance, agressions sexuelles et viols. Mais il y a aussi l'établissement Stanislas à Paris, Stan pour les intimes. Un énorme et très prestigieux groupe scolaire qui rassemble 3600 élèves de la maternelle aux classes préparatoires et qui forme les futures élites économiques et politiques françaises. À Stan, quand des filles sont victimes de harcèlement sexuel, l'équipe encadrante les culpabilise. Un livret distribué aux élèves leur explique même comment elles devraient se comporter pour, je cite, « ne pas exciter le garçon ». Pour, je cite toujours, « le protéger contre lui-même ». Si, si. En éducation à la vie affective et sexuelle toujours, en éducation à la vie affective et sexuelle, les stéréotypes sexistes et misogynes sont légion. On prône le retrait comme seule méthode de « contraception », entre guillemets. On explique que le préservatif et la pilule sont à bannir et on explique que l'avortement serait un meurtre. Bon. L'homosexualité, elle, est présentée comme une déviance et des thérapies de conversion sont même proposées. Tout élève qui n'est pas hétéro ou même simplement un garçon qui parlerait trop aux filles fait l'objet d'humiliations largement favorisées par le personnel. La liste est encore longue, mais je vous encourage vivement à lire l'enquête que Mediapart a faite sur le sujet en juin 2022, intitulée « L'univers sexiste, homophobe et autoritaire de Stanislas ». Alors avec tout ça, on pourrait se dire que Stan risquerait de perdre son contrat avec l'État. Eh bien non, pas du tout. C'est le lycée musulman Averroès que le préfet de Lille a décidé de déconventionner en s'appuyant sur des soupçons infondés de connivence avec un islam salafiste, voire supposément pro-terroriste. Pourtant, même le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale n'a trouvé absolument aucun élément à charge, ce qui n'a pas empêché l'État de sanctionner lourdement le lycée Averroès en résiliant son contrat, le privant ainsi de tout financement public. Averroès versus Stanislas, on a comme l'impression d'un deux poids, deux mesures. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, si si. Le tribunal administratif de Lille vient justement, hier, d'annuler la décision de la préfecture en disant, je cite, que « l'administration n'a pas suffisamment démontré l'existence des manquements qui lui sont reprochés ». Le lycée Averroès retrouve donc son contrat, à condition bien sûr que l'État ne fasse pas appel. Alléluia, ou plutôt Hamdoullah. Enfin, Averroès ou Stanislas, je rappelle que les enseignants des établissements privés sous contrat sont intégralement payés par nos impôts, ce qui représente quand même la modique somme de 13 milliards d'euros, soit 15% du budget de l'éducation nationale. Est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé pour financer l'école publique? La question se pose clairement, mais ça, c'est une autre histoire. Ce soir, dans la matinale de 19h, Garance recevra Théa et Zainab du Campus Film Festival. Éléonore nous fera un petit récap de l'actualité. Isnel et Diane se prêteront à l'exercice de la chronique. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview et on va parler des déserts médicaux.
Si on veut consulter en urgence, c'est très compliqué. Soit on passe par des centres de santé et donc là, il faut attendre 2-3 jours pour avoir un premier rendez-vous. Soit on passe par des généralistes, mais ils font du dépassement d'honoraires assez important.
Quand c'est urgent, il faut être au centre à 8h du matin. L'ouverture à 8h30, et déjà il y a 20-30 personnes, et ils prennent que 9 personnes.
C'est difficile effectivement de consulter un médecin, que ce soit un médecin généraliste comme un pédiatre, de manière réactive. Quoi.
Il y a quand même pas mal de médecins généralistes. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des difficultés pour obtenir un rendez-vous.
Tu as tendance à aller chercher autre part qu'en Seine-Saint-Denis pour avoir accès à des services qui sont assez basiques, et pourtant on est quand même en pleine métropole.
Nous venons d'entendre un micro-trottoir qui nous parle des déserts médicaux et c'est justement le sujet que nous allons évoquer ce soir avec Guillaume Chevillard que nous avons le plaisir de recevoir par téléphone. Guillaume Chevillard, est-ce que vous êtes avec nous?
Bonsoir à toutes et tous, vous m'entendez?
Guillaume, on vous entend parfaitement. Vous êtes géographe et maître de recherche à l'IRDES, l'Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé. Avec vous, nous allons donc revenir sur la récente proposition de loi qui vise à lutter contre les déserts médicaux. Et c'est mon camarade Théophile qui va mener cette interview. Bonjour Théophile.
Bonjour.
Je te laisse la parole.
Oui, justement, donc vous êtes Guillaume Chevillard, donc chercheur en géographie. Vous avez d'ailleurs, et on vous a invité pour parler de ces questions de déserts médicaux et de régulation de l'installation des médecins qui sont revenus sur la scène. Vous avez d'ailleurs proposé en février 2024, avec deux chercheuses, Marie Bonal et Véronique Luca Gabrielli, une définition du terme déserts médicaux. Peut-être pour commencer déjà, nous proposer justement une définition de ce terme, rapidement, pour fixer les enjeux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est assez compliqué de tout résumer, parce que le micro-trottoir que vous avez fait illustre déjà des situations variées de difficultés d'accès aux médecins. Pour donner une définition simple, et puis après, ça va dépendre évidemment des soins qu'on cherche à couvrir, mais une définition simple des déserts médicaux et un peu large, c'est de dire que ce sont les territoires dans lesquels les populations rencontrent des difficultés pour accéder, alors le plus souvent aux médecins généralistes, parce qu'on va y revenir, c'est là que le problème se concentre. Donc voilà, c'est les territoires où vous avez des difficultés d'accès aux médecins généralistes, et ça a été un peu illustré hein, dans le micro-trottoir. Des fois, c'est des questions de dépassement d'honoraires qui font qu'on peut pas y aller. Des fois, c'est des questions de délai d'attente. Dans d'autres territoires, ça va être le fait que vous avez un médecin qui part en retraite, qui est votre médecin traitant, et vous n'avez pas de nouveau médecin traitant, ou en tout cas, vous avez des difficultés à en trouver un nouveau. Donc voilà, ce sont ces territoires où, en moyenne, vous avez une offre de soins qui répond pas aux besoins de la population. Et ces territoires sont le plus souvent, on va dire classiquement, dans des territoires moins attractifs, donc plutôt les territoires ruraux ou les territoires urbains défavorisés. Mais on a un problème qui est depuis quelques années un peu plus général, puisque la désertification médicale, et c'est ressorti aussi, touche les grandes villes, les métropoles aussi, où on a de plus en plus de difficultés pour les populations à s'inscrire ou se réinscrire auprès d'un médecin traitant. Voilà pour une définition un peu, on va dire, large du phénomène.
Ce phénomène, justement, vous le définissez par la difficulté d'accès. On peut se demander comment il se caractérise. C'est plutôt un problème de nombre, de répartition des médecins, ou on imagine que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué?
Exactement. On a vraiment, et vous l'avez bien décomposé, on a ce double problème en France, c'est-à-dire qu'on a historiquement un problème de répartition sur le territoire, c'est-à-dire que les médecins généralistes ne sont pas répartis de manière uniforme sur le territoire national. Donc je l'ai un peu dit, il y a moins de médecins par habitant dans les zones rurales, dans certains quartiers défavorisés. Vous en avez plus en ville et dans certains territoires assez attractifs pour les populations, les médecins, comme les littoraux notamment. Donc vous avez ces déséquilibres territoriaux, mais ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est assez ancien. Et vient s'ajouter à ça le problème du nombre, justement, que vous avez évoqué, puisque depuis, on va dire, la fin des années 2000, vous avez une diminution du nombre de médecins généralistes qui est amplifiée par la hausse de la population. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une raréfaction ou une désertification de l'offre médicale. Mais cette désertification, en fait, elle vient plutôt amplifier les problèmes de répartition existants, c'est-à-dire qu'elle est plus forte dans les territoires, les zones rurales où vous aviez déjà un peu moins de médecins. Donc on a ce double problème de nombre, et ça va durer encore quelques années, et de répartition territoriale qui là s'additionne dans cette problématique de la désertification médicale pour les généralistes.
Vous nous parlez justement de cette désertification qui touche particulièrement deux types de territoires, donc des zones rurales et des zones et des zones urbaines défavorisées. Est-ce, quand on regarde votre définition qui met en avant la manière dont les zones à l'inverse les plus favorisées sont des zones des centres-villes et périurbains plutôt aisés, est-ce qu'on ne peut pas y voir une forme de renforcement d'inégalités déjà présentes et une sorte de défaillance au principe d'égalité républicaine et d'accès aux soins?
Alors effectivement, vous avez, on l'a un peu dit, vous avez des déséquilibres, on va dire déjà au-delà de ce qui se répercute sur l'offre de soins et donc de la répartition des médecins qui nous intéresse, vous avez par essence des déséquilibres en France entre les territoires, en termes de dynamique démographique, de dynamisme économique, d'attractivité auprès des populations, des retraités, des touristes, etc. Tous les territoires en France ne sont pas égaux, ne sont pas autant attractifs, n'ont pas le même tissu économique, social, etc. Donc tout ça fait que vous avez effectivement des déséquilibres entre territoires. Et ces déséquilibres, du fait, on va dire, d'un certain nombre de facteurs, font que dans la répartition et les choix d'installation des médecins, on retrouve aussi ces déséquilibres dans la répartition des médecins qui, pour faire assez simple, vont plutôt aller dans les territoires peuplés où vous avez plus de population et dans les territoires plus attractifs aussi au sens attractif pour les populations. Donc ça pose en effet une question, même si ce n'est pas aussi caricatural, ça pose une question de creusement des inégalités ou non, mais on a quand même des marqueurs assez encourageants d'installation de fait de certaines politiques sur lesquelles on pourra revenir aussi, comme les maisons de santé, qui font qu'on a dans des zones rurales peu attractives, on a des installations significatives et importantes de jeunes médecins. Alors ça suffit pas à compenser les départs en retraite, etc., mais on a quand même des petits faisceaux d'indices de rééquilibrage territoriaux, mais qui ne sont pas suffisants face à l'ampleur du phénomène dont je vous ai parlé au début de raréfaction de l'offre médicale. Donc effectivement, on retrouve un peu des oppositions classiques, des inégalités entre territoires, mais on a aussi des dispositifs, j'ai parlé des maisons de santé, qui viennent en partie compenser, pas corriger, mais compenser en partie certains déséquilibres entre les territoires pour l'offre de médecins notamment.
On abordera justement ces questions de politique plus tard peut-être dans l'interview, mais là, j'aurais aimé revenir aussi sur les conséquences directes sur les personnes qu'a cette désertification médicale. On peut par exemple se demander la lenteur d'accès aux soins, est-ce que ça représente un danger concret? Comment il s'illustre? Comment il se matérialise?
Alors, effectivement, c'est une bonne question. En France, on a, comment dire, je me place côté chercheur, mais on a effectivement plutôt en tête, assez intuitivement, on peut faire l'hypothèse que bon, bah, quand on est loin d'un médecin ou qu'on manque de médecin, bah, c'est mauvais pour l'état de santé des populations. Après, il faut toujours établir une forme de causalité, c'est-à-dire ici, par exemple, dans ce qui nous intéresse, il faudrait prouver, montrer, étudier que suite au départ en retraite d'un médecin généraliste qui est non remplacé, bah, qu'est-ce qui se passe en fait pour les populations qui n'ont plus ce médecin traitant en termes de parcours de soins, d'état de santé, de suivi, etc. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore faites, mais qui seraient à faire et qui pourraient être intéressantes. Et donc, c'est pour répondre un petit peu à votre question, pour vous dire que là, il y a tout un pan de recherche qui est un peu manquant en France, mais on a surtout, en fait, des études en France qui s'intéresse à la répartition de l'offre de soins, à l'évolution de la répartition de l'offre de soins, et aussi des études qui montrent qu'effectivement, plus on est loin de l'offre de soins, ici de médecins généralistes, pour ce qui nous intéresse, plus le recours, moins on va recourir à ces soins. Et effectivement, on a après tout un tas de littérature qui montre que quand on a des recours tardifs aux soins, c'est-à-dire qu'on laisse un peu traîner, on ne va pas chez le médecin généraliste à un moment où ce serait opportun, donc par exemple au début de certains symptômes, plus on laisse traîner, plus vous allez avoir un recours tardif pour des soins plus coûteux et pour le patient et vers l'hôpital en général et donc pour la société. Donc ça peut se poser un peu ce problème de soins décalés qui se reportent sur des soins plus complexes hospitaliers pour des soins plus complets. Voilà pour essayer de vous répondre à cette vague question sur les impacts aussi. Et on n'a pas aussi, pour vous répondre en tout cas à ma connaissance, d'études qui documentent l'impact de l'absence de médecins ou du non-remplacement de médecins sur l'état de santé de population par exemple.
D'accord, merci pour cette réponse. Justement, donc, est-ce que ça peut entraîner une surcharge, des surcoûts pour, par exemple, l'État, les dépenses publiques?
Alors, c'est assez dur, effectivement, en tout cas, évaluer le surcoût, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de dire ces patients-là, ne sont pas allés chez le médecin généraliste et on a la certitude dans nos bases de données avec les coûts associés, etc., aux soins, qui sont allés aux urgences ou dans tel type de spécialiste sans passer par la case médecin généraliste pour cette raison-là. Or, la causalité de cette chaîne de soins, on n'est pas forcément en mesure de l'appliquer. Souvent, ce qu'on dit un petit peu de manière grand public, on dit qu'effectivement, il vaut mieux aller chez le médecin généraliste, ça coûte moins cher à la collectivité, plutôt que d'aller aux urgences, où là, une consultation aux urgences coûte beaucoup plus cher. J'ai plus les ordres de grandeur, mais je crois que c'est 5 fois plus qu'une consultation à 30 euros chez le médecin généraliste. Voilà, pour vous donner une idée, mais l'idée de base, c'est qu'effectivement, une consultation chez le médecin généraliste qui a une vision un peu globale de son patient et de son parcours, bah, c'est plus efficace et moins coûteux, et c'est même mieux aussi pour le patient que des consultations un petit peu, on va dire, ponctuelles et décentralisées aux urgences. Voilà, tout pour essayer de répondre sur ce point.
Merci, on va faire une petite pause musicale et on continue cette discussion juste après. Tout de suite, on écoute « Viens voir le docteur » de Doc Gynéco.
D'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on jouera à des jeux polissons. Tu seras Hélène et je serai tous les garçons. Je serai l'abeille qui va lécher ton miel. Je te ferai ton premier baiser. Mais ne sois pas fâché contre les filles d'à côté qui dans leur classe de mannequins veulent m'attirer. Test psychologique, méfie-toi des bluffs astrologiques. Si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis ok. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme ni de son spéculum. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs. Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur.
C'était Viens voir le docteur de Doc Gynéco.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Guillaume Chevillard, géographe et maître de recherche à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Et je vous relaisse la parole à vous deux, Théophile et vous.
D'accord. Nous nous étions arrêtés donc sur la question de l'impact de ces déserts médicaux sur les gens. On pourrait peut-être enchaîner dans la deuxième partie de cette interview, peut-être s'intéresser aux mesures mises en place pour lutter contre, et peut-être encore une fois commencer sur une question assez générale, Guillaume Chevillard. Quels sont les freins à l'installation, à la formation des médecins actuellement en France, qu'on peut noter rapidement peut-être.
Alors, peut-être attirer votre attention sur un point qui est peu documenté, mais sur lequel on avance un peu, en lien avec la liberté d'installation et les choix d'installation des médecins. Vous avez, pour faire simple, alors c'est une partie du problème, hein, c'est pas la seule, on va voir que c'est un problème complexe, mais vous avez, pour faire très simple, les étudiants en médecine, qui sont les médecins de demain et les médecins généralistes, pour ce qui nous intéresse, eh ben, ils sont principalement, majoritairement, même dans leur immense majorité, issus de grandes villes. Et donc, les étudiants issus de zones rurales, pour faire simple, sont sous-représentés par rapport à la population. C'est important d'avoir en tête parce qu'on sait qu'il y a un lien très fort entre les décisions d'installation des médecins et là où ils ont grandi, ça joue. Voilà. Ça, c'était un petit préambule. Et là-dessus, excusez-moi, du coup, je me suis emmêlé les pinceaux sur votre question initiale.
Pas de souci.
Que j'ai oublié.
La question initiale, c'était justement peut-être un tableau très rapide des freins à l'installation et aux formations,
ouais,
pour mieux comprendre, okay, les politiques qui sont mises en place contre.
Oui, très bien. Et pardon, excusez-moi, du coup, les freins à l'installation, bah, en fait, ce qu'on. Alors, on l'a plutôt dans le sens inverse, ce qui facilite l'installation, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, mais ça répond en creux à votre question, en tout cas, j'espère. Ce qui facilite l'installation, quand on pose la question au médecin généraliste, c'est trois choses, en tout cas, sur lesquelles j'insiste, c'est l'origine et les attaches familiales. C'est vraiment un déterminant majeur de l'installation des médecins généralistes. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir exercer en groupe, donc de plus être tout seul, hein, dit autrement. Et le troisième point qui joue, lorsqu'il regarde où s'installer dans un territoire donné, eh ben, c'est la présence de services, d'emploi, services du quotidien, etc., dans le territoire. Ça, c'est vraiment trois choses qui ressortent assez nettement. Après, il y a d'autres choses, hein, comme les stages au cours de la formation. Mais voilà, ça, c'est vraiment les déterminants principaux qu'on connaît, les plus récents sur l'installation des médecins dans les territoires. Et donc, les freins, c'est ce qui va être un peu en creux, l'isolement, la charge de travail, l'éloignement géographique par rapport au lieu d'études, des choses comme ça.
Merci pour cette réponse assez claire. Justement, sur cette question de choix d'installation des médecins, on a eu le 3 avril une proposition passée à l'Assemblée qui statuait pour éventuellement réguler l'installation des médecins, donc mettre en place des installations plus orientées. On a vu beaucoup de médecins monter au créneau, dire que c'était autoritaire, que c'était une mauvaise façon de procéder. En quoi elle consiste, cette proposition? Et est-ce qu'elle est opposée justement aux droits des médecins libéraux généralistes?
Alors, sur le principe de cette régulation de l'installation, le principe, en fait, il existe déjà en France pour les infirmières libérales depuis 2012, pour les kinés, pour les sages-femmes notamment, plus récemment. Et le principe, c'est de définir, de découper le territoire, si vous voulez, en définissant, pour faire simple, des zones mieux dotées, donc ici en médecins, et des zones en bas de l'échelle les moins dotées. Et donc, le principe de la régulation de l'installation, c'est de dire on ne permet plus d'installation de médecins dans les zones considérées comme les mieux dotées, sauf s'il y a un départ en retraite ou autre, et dans ce cas-là, on permet une nouvelle installation. Donc, c'est vraiment le principe de un départ, une arrivée dans les zones les mieux dotées. C'est ça le principe de la régulation de l'installation qui est proposé par Guillaume Garot depuis dans cette loi, et puis ça fait plusieurs années que ce principe revient, en tout cas qui propose ce principe pour on va dire améliorer la répartition géographique des médecins. Et donc sur la seconde partie de votre question, ça vient en partie rogner cette liberté d'installation, vous l'avez compris, sur une partie du territoire, les zones considérées comme les mieux dotées. Alors après, c'est vraiment un concept particulier en ce moment où l'offre recule partout, mais le principe, effectivement, c'est que les installations seront permises partout, mais régulées dans ces territoires-là, avec ce principe d'un départ, une arrivée.
Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on peut justement, vous le dites, c'est une nouvelle loi, est-ce qu'on peut déjà aussi se demander qu'est-ce qui est déjà en place pour favoriser? On peut penser au CESP, par exemple, ou vous en avez parlé dans la première partie sur les maisons de soins.
Oui, complètement. On a... Pour faire simple, depuis à peu près 20 ans, mais ça s'est fait progressivement, on va dire des politiques plutôt incitatives qui visent à attirer les médecins dans les zones les moins dotées, donc le plus souvent des zones rurales, mais maintenant on l'a dit, de différents types de territoires. Et ces politiques incitatives, ça peut être des incitations financières. Quand vous vous installez dans une zone déficitaire, ça peut être des exonérations fiscales, des aides à l'installation, des choses comme ça. Vous en avez parlé, les CESP, les contrats d'engagement de service public, qui sont des bourses d'études pour les étudiants en médecine, donc qui s'engagent à exercer plus tard dans une zone sous-dotée, un désert médical, et donc ils s'engagent à exercer autant d'années qu'ils ont bénéficié de cette bourse. Voilà, s'ils ont 5 ans, ils exercent 5 ans dans un désert médical. Donc ça, c'est une possibilité, les CESP. On n'a pas de... Pour les CESP, on n'a pas d'évaluation du dispositif encore. On a juste des bilans, mais on ne sait pas si les médecins restent effectivement, s'ils s'installent. Mais en tout cas, c'est une politique qui est déployée depuis 2010. Sur les incitations financières dont je vous ai parlé, pareil, on n'a pas d'évaluation. On a plutôt des bilans de la Cour des comptes ou de certains sénateurs. Alors, ça permet de se faire une idée. le problème supposé des incitations financières, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'elle bénéficie soit à des médecins qui sont sur place et qui bénéficient des aides, soit à des médecins qui, de toute façon, seraient allés dans les territoires ciblés et donc bénéficient de cette aide. Et donc ça, bon, ça reste à montrer, mais c'est plutôt un peu ce qui ressortait de certains bilans qui ont été faits, avec le fait que ça permet peu d'installations. Et le dernier, enfin un des autres leviers, c'est les maisons de santé qui visent à améliorer les conditions d'exercice, qui regroupent des médecins avec d'autres professionnels de santé, et donc des groupes, et des médecins exercent en groupe dedans. Et ça, on a des évaluations qu'on a menées avec des collègues qui montrent bien que c'est assez attractif, y compris dans les zones rurales plus reculées. Donc ça, ça fonctionne, les maisons de santé, mais ça fonctionne dans le contexte dont on a parlé de choc démographique et de raréfaction de l'offre. Donc ça ne suffit pas, si vous voulez, à compenser le choc d'offre. Voilà sur quelques leviers et qui, pour certains, ne sont pas suffisants. Et c'est pour ça que vous avez des députés qui veulent aller plus loin avec la régulation de l'installation notamment.
On entend justement ces propositions de régulation et ces leviers différenciés. On entend aussi parfois, à l'opposé, des personnes qui entendent que si on libéralisait le marché plus encore et qu'on lâchait la régulation, on pourrait avoir une répartition équitable des médecins naturels, entre guillemets. Est-ce que c'est crédible? Et si ça ne l'est pas, pourquoi?
Alors oui, alors il y a plusieurs questions. Effectivement, la première, c'est de se dire, est-ce qu'on aurait les moyens de former plein de médecins jusqu'à tester l'hypothèse que naturellement ils iraient se répartir le mieux? C'est jusqu'à quel niveau il faut pousser l'effort financier? Donc ça, c'est un peu une inconnue. Mais plus empiriquement, si vous voulez, on a des travaux qui montrent qu'en fait, pour faire assez simple, il n'y a pas d'adéquation vraiment entre l'offre de médecins généralistes pour ce qui nous intéresse et les patients, dans le sens où en fait il y a une asymétrie dans l'information. C'est un peu spécifique du marché des soins. Le médecin peut par exemple dire au patient, vous revenez me voir dans X semaines, etc. Et donc ça, ça peut créer ce qu'on appelle de la demande induite, et cette demande induite fait que, pour faire simple, dans des zones où vous avez des médecins nombreux, eh ben, ils peuvent avoir des revenus déjà conséquents. Donc, pour répondre à votre question, en fait, du fait de ce phénomène, ça veut dire déjà que si on voulait effectivement former énormément de médecins pour qu'il y ait sans réguler le nombre de médecins conformes, pour qu'ils se déversent le plus naturellement possible dans les territoires, eh ben, c'est en partie erroné, ou alors il faudrait atteindre des niveaux de médecins qui les poussent, entre guillemets, à aller dans les zones les moins dotées pour vivre. Donc voilà, mais empiriquement, c'est plutôt quelque chose qu'on sait faux. Il n'y a pas de on va dire d'effet de rebond sur les territoires les moins dotés mécaniquement. Ce qu'on sait plus et qui est intéressant, c'est de jouer sur l'origine géographique des étudiants, en essayant de diversifier un maximum les profils géographiques des étudiants et donc d'avoir plus d'étudiants ruraux. Ben, on sait que les étudiants ruraux, ils ont plus de souhaits et qu'ils s'installent davantage dans les zones rurales. Et donc, si on en a plus, par effet rebond, on sait que plus tard, on aura plus de médecins qui s'y installent. On peut plutôt jouer là-dessus plutôt que d'en former énormément.
Merci beaucoup, Guillaume Cheviard, de nous avoir aidé à éclairer cette réforme proposée. Et merci d'avoir été là et répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Théophile, pour avoir mené cet échange passionnant. Merci beaucoup, Guillaume Cheviard, de vous être rendu disponible et de nous avoir fournit vos éclairages. Je précise juste que le petit micro-trottoir qu'on a entendu tout à l'heure n'était pas de nous, mais c'était une rediffusion de Tous pour la Santé TV. Voilà, juste pour rendre à cette chaîne ce qui est à elle. Et tout de suite...
Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir. Tout de suite, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et ce soir, c'est Éléonore qui est au Flash Info. Bonjour Éléonore.
Bonsoir Thomas. Les actus du jour que vous avez ratés tout de suite. Société, la France sur le banc des accusés. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, déclare dans son arrêt rendu ce jour que le consentement doit traduire la libre volonté d'avoir une relation sexuelle déterminée au moment où elle intervient. En ce sens, elle condamne la France qui n'aurait pas respecté plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire de 3 plaintes pour viol sur mineurs. Et puis, on dénombre un mort et 3 blessés au collège-lycée Notre-Dame de Toutaide à Nantes. Le drame est survenu ce midi. L'auteur présumé en possession d'une arme blanche a été interpellé et maîtrisé par le corps enseignant. Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur se sont rendus sur place et ont annoncé vouloir durcir la gestion de ces actes en hausse. Cela prend son contexte dans les nouvelles mesures de fouilles aléatoires à proximité des établissements scolaires. International maintenant, le Cachemire fait face à de nouvelles tensions entre l'Inde et le Pakistan. Suite à l'attentat en début de semaine qui a fait 25 morts, c'est dans un contexte de représailles que l'Inde avait ordonné aux citoyens pakistanais de quitter le territoire avant expiration de leur visa. Shehbaz Sharif, le premier ministre pakistanais, a annoncé aujourd'hui la fermeture de l'espace aérien et de sa frontière à l'Inde. Outre-mer, Emmanuel Macron souhaite créer une commission mixte franco-malgache d'historiens, ayant pour objectif de travailler sur les thématiques de décolonisation et de la violente répression de l'armée française pendant l'insurrection de 1947. Il avait également demandé l'intégration du département français de Mayotte à la COI, Commission de l'Océan Indien, en réponse à l'hostilité des Comores. Perspective entravée par l'Union des Comores qui s'oppose à l'affirmation d'une quelconque souveraineté qu'elle continue de contester fermement. Économie désormais, le groupe People & Baby, qui dénombre 500 crèches en France, a annoncé dans un communiqué un projet de redimensionnement de son réseau et des réalités du secteur. C'est donc 44 crèches qui sont amenées à fermer d'ici cet été, suite aux difficultés financières de l'entreprise. Le groupe en pleine expansion depuis plusieurs années s'est vu confronté à sa négligence et sa gestion structurellement défaillante, mise en exergue entre autres par la mort d'un nourrisson en 2022 et plus récemment la publication du livre-enquête « Les ogres » de Victor Castanet en 2023. Et enfin pour terminer, environnement, une fuite a eu lieu lors d'un transfert sur barge, pas moins de 80 000 litres de pétrole ont été déversés lundi sur le Danube. L'AFP a reçu confirmation ce jour de l'Institut d'analyse sur les risques de pollution du fleuve qui sont toujours en cours. Cette négligence est contenue pour l'instant par une barrière de protection, mais n'efface pas le lourd bilan de pollution des eaux et de son traitement de 15% d'entre elles.
Merci Éléonore pour ces flash infos. Et tout de suite, nous vous faisons une petite pause musicale. On écoute Effeminacy de Sega Bodega. Nous avons écouté Efféminacie de Sega Bodega et tout de suite, c'est l'heure de la chronique. L'heure de la chronique.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et ce n'est pas le Zoom, mais c'est la chronique. Et c'est Isnel qui s'en charge. Bonsoir Isnel.
Bonsoir. Alors vous avez peut-être entendu parler de Sinner, Ryan Coogler, thriller, 63 millions de dollars en 3 jours. Grosse claque, grosse réussite. Mais là, silence. Sourcils levés, mâchoire tendue, comme si le film avait triché au contrôle. Trop bien, trop efficace, trop noir. Scary. Ça fait peur apparemment. Et puis tiens, cette histoire me rappelle vachement quelqu'un. Fanon, biopic français, signé Jean-Claude Flamand Barny, sur France Fanon, psychiatre, révolutionnaire, penseur radical, un film fort, humain, politique. Et pourtant, sorti au départ dans 70 salles, à Paris, zéro, arrêt essai, nope. Pourquoi ? Oh, vous savez, pas assez art et pas assez essai, et puis trop de musique, et puis aussi film de vieux, et les vieux ils sont morts, donc voilà. AKA la version française sous-titrée de « J'ai pas envie d'un grand noir en tête d'affiche qui me rappelle mon passé colonial que je préfère ignorer parce que je suis la parfaite victime parfaite de l'histoire qui continue toujours d'empiler les butins ». Bon, ok, ça c'est peut-être la version VF de Naruto, uploadée en 12 parties sur Dailymotion par les pseudo-bilingues. Les vrais, vous vous rappelez. Mais ici, on va parler français, malgré mon TDAH et mes études de lettres qui me donnent souvent assez de légitimité pour se classer en alexandrin et faire de longues digressions. Parce que, bon, on le connaît, ce vieux scénario, c'est le double standard. Quand t'es blanc, tu peux tout rater, c'est charmant, il se cherche, c'est authentique, voilà. Par contre, quand t'es noir, faut être excellent, impeccable, remarquable, et le tout avec un petit sourire vidéo en mode TED. Bien sûr, c'est ce que ma mère m'a dit à la naissance, t'as pas le droit à la naissance, pas bonne, excellente, excellente au carré. Malheureusement, je suis très nulle en maths. Mais c'est ce qu'on comprend par la suite, c'est que malgré toutes les preuves, salle pleine, critique élogieuse, box-office, etc., etc., c'est encore non, encore un doute. Parce qu'au fond, c'est toujours la même question. Pourquoi ça devrait exister? Pour qui? Quel intérêt? Moi, je vois pas. Bah, si c'est pas moi, pourquoi ça m'intéresse? Moi, aka blanc, universel, le reste, option, voix off, guest star du mois. Et là, drame, on découvre qu'en fait, il y a d'autres ici, d'autres voix, d'autres trucs que moi. Et ça pique. Parce que l'universalisme blanc, bah, comment dire, c'est un concept un peu générique, un peu vide. On a effacé les patois, les cultures régionales, les langues locales, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, bah, on se retrouve un peu avec un truc universel, en fait, enfin, ironiquement, une feuille blanche finalement, parce qu'il n'y a plus grand chose à raconter. Du coup, on va piocher chez les autres, les tresses africaines originaires des Vikings, le sari, nordique ces jours-ci, bubble tea, le matcha, bientôt revisité à l'américaine apparemment. Bref, on fait du remix culturel sans licence, on renomme, on revend, on jette et on recommence. Nouveau jour, nouvelle approche. Appropriation culturelle. Mais là, ça devient crucial parce qu'après ça, on attaque aussi les mots. Woke, devenu une insulte. Diversité, danger. Inclusif, menace. Parce que le centre ne doit pas bouger jamais. Et si tu veux une place à la table, alors va falloir venir avec des preuves, un sourire, un PowerPoint. Pendant ce temps, les médiocres tournent à plein régime, sans pression, sans stress, avec subvention en plus. Mais là, surprise, Fanon, grâce au public, a gagné 37 salles. Sinner, soutenu, relayé par Ben Stiller et compagnie. Et Ryan Coogler, posé, nous remercie avec merci à ceux qui sont venus une fois, deux fois, trois fois, on vous voit. Et moi aussi, je vous vois, parce que le twist, c'est que parfois, sans permission, sans validation, on existe quand même, et mieux, on dérange en réussissant. Et ça, franchement, je trouve que c'est le meilleur spoil de l'histoire du cinéma moderne. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi, Isnel. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Cette fois, c'est vraiment le Zoom. Et nous recevons Zainab et Théa. Bonsoir, Zainab.
Bonsoir.
Bonsoir, Théa.
Bonsoir.
Vous êtes du Campus Film Festival. Et c'est Garance, excusez-moi, qui va mener cette interview. Bonsoir Garance.
Bonsoir Théa, bonsoir Zainab.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Comme le disait Thomas, vous organisez le Campus Film Festival. C'est un festival de cinéma qui a été imaginé et qui est également entièrement organisé par des étudiants de l'Université Paris 8. La troisième édition du festival, elle se tiendra au Majestic Bastille, dans le 11e, du vendredi 25 au dimanche 27 avril. Le festival commence demain. Comment ça va?
Ça va, on est là.
C'est la dernière ligne droite.
Ouais, on est un peu stressé, mais c'est l'aboutissement de 5 bons longs mois de travail. Donc contente.
Exactement, on voit enfin la fin de tout notre travail, de tous ces longs mois de discussion et de travail, de coordination avec les autres pôles, les intervenants, le cinéma. et les distributeurs, etc. Enfin, c'est vraiment un long travail qu'on a réussi à enfin mener. On a hâte de voir comment ça va se passer.
Oui, bah l'édition a l'air très chouette. La première édition, elle était centrée vraiment plus sur la représentation de la jeunesse à travers les films de campus. Mais chaque année, j'ai l'impression que vous essayez de choisir un nouveau thème. Donc la première année, les films de campus. La deuxième année, c'était peut-être plus autour du rêve, de l'imagination. Et là, cette année, le thème que vous avez choisi, c'est... éclater.
Génération éclatée. C'est ça.
Désolée. Parce que c'est peut-être un angle du coup un peu plus politique, un peu plus engagé. Est-ce que vous voulez un peu revenir sur ce thème? Comment vous l'avez imaginé?
Ouais. Alors en fait, c'est déjà les éditions d'avant, c'est d'autres étudiants de master. Là, c'est la première fois que notre master fait cette édition. Et le thème, il a été pensé. On voulait reprendre le terme éclaté parce qu'on trouvait ça assez marrant de l'utiliser pour nous et de le reprendre vraiment au premier degré, quoi, génération un peu brisée, quoi. Et ouais, on voulait une programmation assez politique, engagée, avec toutes sortes de films, un truc assez inclusif. Et on parle de la violence vécue et vue par les jeunes.
La programmation, elle est très éclectique. Il y a des documentaires, donc par exemple How to Save a Dead Friend, un documentaire russe. Il y a le film aussi brésilien La Cité de Dieu. Il y a aussi le très beau documentaire Coconut Talking Generation. Comment est-ce que vous imaginez cette programmation? Comment est-ce que vous avez fait ces choix esthétiques?
Au tout début, on a vraiment fait une immense liste de tous les films qui nous faisaient penser au thème. Donc ça a vraiment été de Bénice Vidéo d'Anneke à Sexy Dance avec Channing Tatum. Et ensuite, on a fait des sélections. On voulait vraiment diversifier notre programmation, donc que ce soit en termes de pays, de genre, et puis même de style, parce que voilà, on a beaucoup de documentaires. Ensuite, c'est vrai que les boîtes de distribution ont fait un deuxième tri, parce qu'il y avait certains films qui n'avaient pas des endroits en France, donc on a dû écarter certaines productions. Films, ouais. Exactement.
On a quand même réussi à avoir Aïssa de TV Glow qui n'est pas sorti en France et qu'on est hyper fiers d'avoir. Il passera samedi soir. Voilà, lui, on a réussi à l'avoir. Ouais. Il n'a pas. Les ayants droit ne sont pas en France.
Et puis voilà, il y a par exemple aussi le documentaire Naël, un an après la révolte étouffée, de Mathieu Bidan, de Street Press, qui n'a jamais été diffusé au cinéma également. Donc c'est vraiment, on a fait attention à prendre des films qui ne passaient pas souvent. C'est vrai que les éditions précédentes, il y avait beaucoup de films grand public, des grands titres, etc. Et nous, on a essayé de diversifier du mieux qu'on pouvait cette programmation.
Merci beaucoup. Comme vous disiez, donc c'est d'autres étudiants à la base qui ont fondé le festival, et donc vous, c'est la première année que vous l'organisez. Comment ça s'est un peu passé, ça, cette transmission du festival un peu de génération en génération?
La transmission, on a rencontré quelques-uns au début d'année qui nous ont un peu expliqué comment ça se passait, et après ça a été un peu la découverte pour tout le monde. Ouais. Un peu compliqué au début, mais il faut se coordonner avec tous les pôles, et voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça demande beaucoup de temps, sachant que c'est en plus de notre de ce qu'on fait sur notre temps libre, en fait. Donc c'est un gros travail. Mais voilà, on a réussi à faire pas mal de trucs chouettes. On a beaucoup d'intervenants très cool.
Et c'est aussi un nouveau cinéma, parce que c'est la première édition organisée au Majestic Bastille. Avant, c'était au Saint-André-des-Arts, un cinéma un petit peu... avec un peu moins de monde, si je puis dire. Mais donc là, ça a vraiment été une découverte totale.
Et avec des nouveaux enjeux, du coup.
Aussi.
Voilà.
Parallèlement au festival, j'ai vu que vous organisiez aussi tout au long de l'année des actions plutôt de médiation à destination du jeune public, notamment des ateliers de réalisation. J'ai vu notamment que demain, en avant-programme, vous projetez un court-métrage réalisé dans le cadre d'un de ces ateliers. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot?
Ouais. Alors, avec Zednam, on est dans le pôle programmation, donc ce n'est pas nous qui avons réalisé l'atelier, mais le pôle médiation en fait, a organisé des séances avec un BTS de Montreuil.
Oui, C'est le BTS sanitaire et social du lycée Jean Jaurès de Montreuil. Et c'était une classe surtout de filles qui n'avaient vraiment jamais eu accès à tout cet univers-là de réalisation. Et c'était vraiment très important pour nous de diffuser ce court-métrage demain.
Merci. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a chacune une œuvre qui vous tient à cœur ou une séance que vous souhaiteriez plus particulièrement évoquer ?
Moi, j'ai beaucoup aimé How to Save a Dead Friend de Marussia, excusez-moi, si Zeroeshkovskaya. C'est un documentaire assez fort, sans vouloir trop en parler. Il s'agit de on suit un jeune homme russe qui subit un petit peu dans la Russie de Poutine. C'est assez fort, et puis le film est très très beau, très, et puis on l'a mis samedi matin à 11h, donc c'est je pense que c'est vraiment le temps idéal pour voir ce film-là.
Ouais, un peu déprimant, mais important à voir. Et après, franchement, toutes les séances, on a des séances qui sont vraiment bien accompagnées. Le film She Said de Maria Schrader, on a la présence de la journaliste Marianne Turki de Mediapart et de Judith Godrèche à la fin, qui viennent pour une discussion. Pour Naël, un an après la révolte, on a aussi le Réal qui vient. On a la fondation d'Assa Traoré, Génération Leader. Globalement, toutes nos séances sont hyper bien accompagnées. Coconut Head Generation, c'est avec le ciné-club L'Écran des Droits et en partenariat avec Amnesty. Donc voilà, on a beaucoup de...
Et par exemple, pour la Cité de Dieu, on a essayé de varier. On a Fif Tobosi, cofondateur de Bouscapé, et Diogo Silva Correa, qui est un professeur de sciences politiques brésilien. Et c'était vraiment pour un peu montrer ces deux univers-là, le rap et puis...
Doctorant.
Exactement, un doctorant. Et... Une discussion, d'ailleurs, Fifth nous disait que c'était la première fois qu'il faisait ça avec un universitaire, donc c'était aussi hyper intéressant pour lui de voir ce point de vue-là.
Ouais, bah c'est très chouette. Donc ça, ce sera la séance de dimanche 27 avril à 20h.
C'est ça.
Cette année, donc chaque année, vous avez aussi un parrain différent.
Ouais.
La première année, c'était le réalisateur Cédric Lapiche. Là, cette année, c'est le jeune acteur Saïd El Alami. Comment ça s'est passé, cette rencontre, si vous voulez peut-être vous parler de son travail, cette relation?
Cette rencontre, elle s'est faite par son distributeur, qui est... J'ai un petit trou...
Ça dépend des films.
Pour La Pampa, c'était...
Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout.
On a un petit trou, mais ça s'est fait... comme ça, et Saïd a été direct très, très ouvert et très intéressé par l'idée. Et il est vraiment, c'était vraiment le parrain idéal parce qu'on cherchait quelqu'un d'assez jeune. C'est vrai que les éditions précédentes, c'était des réalisateurs. L'année dernière, c'était Léa Missius, donc réalisatrice aussi bien établie. Et donc, nous, on tenait vraiment à montrer des visages montants du cinéma français et aussi un peu de diversité. Dans ce choix-là.
Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Garance, pour l'interview. Merci, Théa et Zainab. Est-ce qu'on peut juste rappeler la date?
Demain. C'est à partir de demain soir jusqu'à dimanche. Voilà, tout le week-end.
Au Majestic Bastille.
Au Majestic Bastille.
Et nous encourageons toutes les personnes qui nous écoutent à y aller. Merci beaucoup. Et tout de suite, on écoute OK de Colline.
Désolé si je t'ai blessé en étant moi. Tu dis qu'avec mes hauts, mes bas, j'en fais trop. T'es jaloux parce que pleurer, toi, tu sais pas faire. Je joue pas, mes sentiments sont en VO. Tu diras plus que t'as du mal à me croire. Je ne t'ai plus, ok, pépé, à ce soir. Avec le temps, appris à me voir. Oh pépé, oh pépé, tu sais, je suis ok. Je n'attends plus rien de toi pour me réconforter. Oh pépé, tu sais, je suis ok. bébé, tu sais, je suis ok. Je n'attends plus rien de toi pour me réconforter. Oh bébé, tu sais, je suis ok. Oh bébé, tu sais, je suis ok. Je n'attends plus rien de toi pour me réconforter. Oh bébé, tu sais, je suis ok. Oh bébé, tu sais, je suis ok. Oh bébé, tu sais, je suis ok.
C'était OK de Colline. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique.
La matinale de 19h.
Bonsoir Diane.
Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de vous parler de Marguerite, qui a sorti son premier single, Les Meufs, Les Filles, Les Meufs. Enfin, j'ai surtout envie de vous parler de... Oui, cette Marguerite, celle que vous avez découverte via la Starac durant la saison dernière. Elle a partagé la scène avec Lucky Love, Oshi ou encore Maëlle. Mais en vrai, j'ai pas vraiment envie de vous parler que de Marguerite, même si bah, c'était ma préférée de la saison dernière. D'ailleurs, Marguerite, si tu écoutes cette chronique, bon déjà je vais chialer, mais c'est assez peu probable en vrai, parce que déjà, faudrait que tu connaisses Radio Campus Paris, que tu vois passer cette chronique quand je vais te mentionner sur Instagram. Donc bon, c'est assez peu probable, mais Marguerite, si tu écoutes cette chronique, bah sache-le, même si tu n'as pas gagné, pour moi, tu as gagné mon cœur, et c'est déjà le plus important. Parce que comme disaient Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, qui, je le rappelle, sont mes parents spirituels sur cette terre, les derniers sont les premiers de notre réalité. Et oui, car comme dirait Amel Bent, je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Mais avant que cette chronique ne se ressemble à un karaoké géant, même si ça ne me déplaît pas, je dois vous faire une confession nocturne. Je n'ai jamais vraiment gagné dans ma vie. Je n'ai jamais eu de premier prix. J'ai toujours été dans la moyenne. J'ai toujours essayé d'être la bonne élève. Mais j'ai surtout... je vais y arriver. Mais j'ai jamais réussi à exceller dans ce que je faisais. Alors apprendre à être la première des dernières, j'ai un peu l'habitude. Et c'est ce que j'aime chez Marguerite, mais aussi dans toutes les meufs de cette saison de la Starac. C'est leur pouvoir de sororité, de soutien, et surtout leur mise en lumière soudaine, alors que sur le papier, il n'y a qu'une seule gagnante à la fin. Parce que oui, j'en suis convaincue, les dernières sont les premières. Pour moi, cette année, c'est ce qui a marqué cette saison de la Starac. C'est un casting très féministe et très engagé. On rappelle que cette année, c'est Marine qui a gagné face à Ebony en finale. Et que l'année dernière, c'est Pierre Garnier qui a gagné face à Julien Lieb en finale. Car oui, l'année dernière, c'est face à Julien que Pierre Garnier a remporté la saison de la Starac. Mais si, Julien, si, vous vous souvenez, enfin, il a fait ça.
Tu le temps des cathédrales.
Ouais, ça fait mal. Hein. Bon, après, on peut pas trop lui en vouloir, ça arrive à tout le monde. Mais il n'a sorti qu'un single depuis sa sortie. Alors, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, et surtout dans le cœur du public, c'est Elena ou encore Lenny qui ont gagné la Star Academy en 2024. Elena nous a remporté avec Mauvais Garçon, et puis Lenny va bientôt remporter la nouvelle saison de Danse avec les Stars. Alors, je le dis haut et fort, ce ne sont pas les gagnants qui sont les vrais stars de la fête. Ce sont ceux qui restent sur le bas-côté et qui acceptent de travailler parfois deux fois plus pour avoir accès à ne serait-ce qu'un millième d'attention et de succès. Ce sont les outsiders qui sortent du lot. Et puis, je pense que à toutes ces stars d'un jour qui font un tube, qui se voient pris par le succès, l'argent, l'attention, mais qui peinent à rester sur le long terme. Imaginez, vous êtes propulsé sur le devant de la scène, tout est à votre disposition, mais pour rester, vous devez faire vos preuves. Parce que le succès n'est que éphémère. Alors que si vous n'êtes pas le gagnant originel, la pression n'est plus sur vos épaules. Vous n'avez pas à faire vos preuves. Alors honorons les dernières de la classe pour accepter qui on est vraiment. Et comme diraient Jean-Jacques Goldman et Céline Dion.
Les derniers sont les premiers. Dans notre réalité, nous serons princes d'éternité.
Merci beaucoup Diane pour cette chronique qui fait du bien dans notre monde tellement compétitif. Merci. Et c'est déjà la fin de notre matinale de 19h. Un grand merci à nos invités Guillaume Chevillard, chercheur en géographie à l'IRDES, et Théa et Zainab du Campus Film Festival. Merci à toute l'équipe qui était à mes côtés ce soir. Théophile à l'interview, Éléonore au Flash Info, Garance au Zoom, Isnel et Diane aux chroniques, sans oublier Simon à la réalisation et bien sûr Alice et Maïwenn à la coordination de notre matinale de 19h. Merci à vous, chers auditeuristes, pour votre confiance. Tout de suite, je passe la main aux camarades de Happy Hour Scientifique. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.
Tout de suite, on se retrouve pour l'Happy Hour Scientifique pour parler de printemps, de plantes et de musique.